Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
De plus en plus, les changeurs de monnaie de Kinshasa, communément appelés cambistes, sont victimes des attaques armées par des hommes en uniforme, non autrement identifiés. Ils emportent l'argent et parfois ils tuent. Par ailleurs, d'autres personnes également sont attaquées la nuit par des malfaiteurs armés à la maison. Ils viennent tirer pour demander des biens de valeur et parfois ils sèment la mort. Alors comment porter plainte en pareille circonstance? Maître Guilhem Aléré, praticien des droits, est notre invité aujourd'hui. Maître, d'abord, comment la loi, disons, définit l'attaque à main armée?
Merci, Jody. Notre code pénal ordinaire, livre 2, en son article 156, prévoit que toutes les associations formées dans le but de porter atteinte aux personnes ou aux propriétés est une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. Le fait donc au Congo de s'organiser en bande pour attaquer les personnes et s'en prendre à leurs biens constitue ce qu'on appelle ici chez nous en République démocratique du Congo l'infraction d'association des malfaiteurs. Et cette infraction est punie par l'article 157 du même code pénal qui dit que toutes les personnes qui participent à une telle association dont le but est d'attenter aux personnes et aux biens, eh bien sont punissables de la peine de mort. C'est donc une infraction qui est sévèrement sanctionnée en République démocratique du Congo.
Voilà, il s'agit d'une association des malfaiteurs et de plus en plus il y a des cas comme ça. À Kinshasa, les changeurs de monnaie sont en font les frais et d'autres personnes également ailleurs sont visitées dans d'autres provinces par des malfaiteurs la nuit qui viennent tirer, peut-être issus, et ils demandent, ils emportent tous les biens des valeurs. Alors dans ce cas-là, si on est victime de ces genres de situations et s'il n'y a pas eu de mort par exemple, alors comment peut-on porter plainte par rapport à ce genre de situations?
Oui, merci Jody. Nous sommes là donc dans ce qu'on appelle une affaire pénale. Et généralement, il est conseillé très vite de se rendre d'abord au poste de police le plus proche, si le coup vient d'être commis. Ça permet à la police qui a de plus en plus un charroi automobile conséquent de se mettre en marche pour tenter d'abord de poursuivre les auteurs, n'est-ce pas, de ces pillages auprès des cambistes. Alors, s'il n'y a pas de poste de police dans les parages, on peut aller à la commune où il y a un commissariat. Et dans chaque commune maintenant, on voit que la police a des pick-up qui lui permettent, n'est-ce pas, de faire les premières investigations. Sinon, l'on peut aussi se rendre auprès du parquet, où il existe des brigades d'inspecteurs judiciaires auprès desquels on peut porter plainte contre inconnus, mais en essayant de décrire au maximum le profil des personnes qui ont opéré le coup, afin de permettre aux services spécialisés de la police, notamment la police criminelle, de pouvoir investiguer et voir si on peut, n'est-ce pas, par les jeux des recoupements, les jeux des informateurs, etc., obtenir des renseignements sur quelques éléments de la bande. Et finalement, on finit par démanteler toute la bande. Donc, ce qu'il faut faire effectivement, aujourd'hui, c'est de porter plainte au plus vite auprès soit de la police, soit du parquet où il y a des inspecteurs qui sont spécialisés dans ce genre d'enquête.
Et si, par exemple, une famille a été visitée la nuit par des malfaiteurs qui ont escaladé les murs et ont tiré des coups de balle dans la parcelle et peut-être qu'ils ont tué et ils ont emporté des biens, dans ce cas-là, comment s'y prendre?
Oui, encore une fois, il faut très très vite avertir le poste de police le plus proche. Vous savez que la philosophie actuelle de l'organisation de notre police nationale, c'est la police de proximité. Il y a donc eu un essaimage des différents postes de police à travers les sous-commissariats qu'on appelle communément conteneurs. Eh bien, il faut aller auprès d'eux parce que parmi ces policiers, il y en a ceux qu'on appelle les officiers de police judiciaire qui sont spécialisés en matière d'enquête judiciaire. Ils viendront sur les lieux pour prélever les premiers indices parce que généralement, quand il y a des coups comme ça, on ramasse sur place des douilles, par exemple, des douilles de munitions qui permettent de reconnaître le type d'arme qui a été utilisé, et à partir de ce simple indice, on peut remonter la filière pour savoir quelle est l'unité qui utilise généralement tel type d'arme, etc. Et même la police, je dis, ça va vous étonner, mais la police est organisée en ce qui concerne la police criminelle, au point qu'il y a même des fichiers de certaines bandes de criminels, et leur mode opératoire est déjà identifié, de sorte que les spécialistes de la police criminelle chez nous, donc au Kakokolo, chez le colonel Matata par exemple, sont en mesure de vous dire, à partir de tel mode opératoire, il y a de fortes chances que ce soit des bandes qui opèrent dans tel ou tel autre secteur. Donc il faut très vite amener, n'est-ce pas, l'information auprès de la police. Et parfois, on est surpris de voir que les bandes de malfaiteurs sont démantelées ainsi.
Voilà, des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-893-6394. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne, Nixon Mangenda. Vous voulez également participer, n'hésitez pas à appeler-nous au 081-893-6394. Nixon est à Béni, on va l'accueillir dans quelques instants.
C'est parce que Radio Kapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Attaque à main armée, quelle est la procédure à suivre pour porter plainte? Nixon, bonjour.
Bonjour, monsieur le maître.
Bonjour, on vous écoute, Nixon.
Ok, Nixon, Mugenda, à partir de la province de Nord, qui vous est
oui. Béni. Oui, je l'ai déjà dit. Passez à la question, Nixon.
Ma question est, je voulais savoir, pour porter plainte à une personne inconnue, quelle est la procédure? Et pour porter la plainte, on paye combien?
Voilà, pour porter
comme
plainte.
Ouais.
Comme un frais de justice. D'accord.
Un frais de justice, c'est combien? C'est ça ma question.
D'accord. Merci. Demeter Maloba est en ligne depuis la ville de Kolwezi. Demeter, bonjour.
Oui, bonjour. Je dis, c'est depuis la ville de Manono.
C'est depuis la ville de Manono, Berry. Ok, on vous écoute.
Oui, j'ai suivi bien votre invité, Maître Guilin. Il a dit il faut aller si vite que possible à la police. Moi, j'aimerais savoir si la police de proximité ne réagit pas si vite que possible, que puis-je faire? La deuxième question, j'aimerais savoir il y a combien sortes d'armes que nous pouvons identifier.
Voilà, non, on va pas commencer à identifier les types d'armes dans cette émission. On s'occupe, on parle beaucoup plus de la procédure à suivre quand on est victime d'une attaque. Merci, Demeter. Maître Aguilar.
Allô?
Oui, Maître Aguilar, vous avez la parole.
Oui, c'est ça, oui. Merci beaucoup, Jody. Nixon, lui, veut savoir comment on porte plainte comme une personne, contre une personne inconnue.
Oui.
C'est ce que nous disions tout à l'heure, Jody. On va dire qu'on porte plainte contre une personne qu'on n'a pas réussi à identifier. Donc, on se rend au poste de police le plus proche. On demande à voir l'OPJ et on lui dit qu'on vient d'être victime, n'est-ce pas, d'un attentat de la part d'un groupe de personnes ou d'une personne inconnue. Et on essaie de décrire au plus possible ce qu'on a pu voir. Parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, Jody, il peut arriver qu'on n'a pas tout à fait identifié la personne, mais à partir de certains indices, par exemple un signe qu'on a vu sur son corps, par exemple, il boitait de la jambe gauche, il semblait être un gaucher parce qu'il tenait son arme n'est-ce pas, par le bras gauche, oui. Etc. Des indices comme ça, il avait un grain de beauté au visage, ou bien c'était une personne de grande taille, une personne mince, etc. Ce genre d'indices, bien que c'est une plainte contre inconnu, ce genre d'indices permettent à la police de dresser ce qu'on appelle un portrait robot de l'agresseur. Donc, il faut aller à la police, avouer qu'on n'a pas pu identifier la personne qui a agressé, mais néanmoins, s'il y a eu quelques indices qu'on a remarqués, eh bien, on peut dire à l'OPJ, lui dire par exemple que l'arme utilisée semblait être un revolver et non un fusil long, hein, etc., etc. Et donc, à partir de là, de ces indices-là, et des enquêtes qui vont être menées immédiatement sur terrain, où l'on peut prélever des empreintes digitales, par exemple, si la personne, comme vous l'avez dit, Jody, a escaladé les murs, a forcé les portes de la maison, donc a touché au poignet et à d'autres endroits du bâtiment, eh bien, tous ces indices-là réunis conduisent la police généralement à attraper un ou deux membres de la bande et à démanteler finalement toute la bande. Donc, plainte contre inconnu, c'est aller dire à la police que j'ai été victime d'une infraction, mais je ne sais pas reconnaître les personnes qui l'ont commise. Alors, les frais à payer dans ce cas-là, en principe, c'est gratuit. D'abord, le fait que vous allez, n'est-ce pas, devant les instances pénales, porter plainte contre quelqu'un qui a troublé l'ordre public, n'est-ce pas, vous rendez service à la société.
Mais
eh bien, la loi prévoit qu'on ne doit rien vous demander. Et la police est censée être équipée pour mener ses enquêtes aux frais de l'État.
Oui, mais généralement, c'est pas ça qui arrive. Vous arrivez au conteneur, on vous dit, bon, à papier, il faut payer pour le papier et les stylos, et puis les frais et les carburants pour traquer les malfaiteurs. Voilà, et tout ça, c'est des problèmes. On va accueillir Omar, avant de répondre aux autres questions, on va accueillir Omar Kigalo, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
J'ai des questions, une contribution. La première, je voudrais que l'invité précise de façon détaillée sur l'attaque à main armée. Lorsqu'il parle de l'association des malfaiteurs, moi je pense que toute attaque armée n'est pas forcément cette infraction. Il peut aussi s'agir d'un vol à main armée. Comme je l'ai dit, pour qu'il y ait association, il ne suffit pas que les gens se regroupent pour attaquer. Encore faut-il que ces gens aient opéré dans un temps relativement long. C'est la deuxième condition. Donc, limiter ces cas à l'association des malfaiteurs sur le plan technique, ça pose problème, car un vol isolé d'un seul jour ne peut pas être associé de malfaiteurs. Deuxième ou première question, puisqu'il y a un problème qui sévit dans la sécurité congolaise, comment lutter efficacement contre ces phénomènes des attaques à main armée? Et dernière question, certains penseurs pensent que l'attaque à main armée constitue une infraction militaire, c'est-à-dire au nom de la théorie de l'apparence, celui qui détient l'arme est assimilé à un militaire et que ses juridictions compétentes seraient les juridictions militaires. Est-ce que l'invité partage-t-il, en tant que praticien de droit, cette pensée? Merci.
Bien. Maître Guilin.
Ok, merci beaucoup, Jody. Nous sommes partis au début de l'émission d'une situation concrète qui est en train de se dérouler dans la ville de Kinshasa, c'est-à-dire les attaques qui sont perpétrées contre les changeurs de monnaie.
Oui.
C'est pour ça que, dans ma réponse, j'ai essayé de simplifier la situation parce que j'ai cru qu'on s'adressait à ce groupe cible qui, selon les informations que j'ai en tout cas, a été, toutes les fois que cela a été dénoncé dans la presse, victime d'un groupe de gens qui venaient soit dans un véhicule, soit sur des motos, pour, n'est-ce pas, menacer les changeurs de monnaie avec des armes, et parfois même on a déploré des morts d'hommes, et prendre leur butin. C'est pour ça que je me suis, bien entendu, limité à l'hypothèse d'une association de malfaiteurs, parce que ces gens-là s'organisent en bande. Il y en a qui sont au volant d'un véhicule, il y en a qui tiennent l'arme, il y en a qui descendent, il y en a qui surveillent les alentours. Voilà pourquoi, pour aller droit au but par rapport au cas concret qui a été, n'est-ce pas, posé, comme hypothèse analysée, je suis allé directement à l'association des malfaiteurs parce que c'est une infraction commise en bande. Bien entendu, lorsque c'est fait par un seul individu, vous comprenez qu'on ne peut pas parler de, comment dire, d'association des malfaiteurs lorsqu'il s'agit d'un vol avec à utilisation d'armes utilisées par une seule personne. Et en ce moment-là, on serait dans les autres hypothèses, n'est-ce pas, du vol aggravé et même des autres attentats contre les individus, notamment les coups et blessures volontaires ou les homicides. Par contre, s'agissant du fait que certains de ces gens-là détiennent des armes, et le plus souvent, vous l'avez dit aujourd'hui en commençant, qu'il s'agit parfois des hommes en armes, n'est-ce pas, qui utilisent des munitions, eh bien, j'ai devant moi le code pénal militaire et j'avais prévu si on avance dans l'émission,
oui.
de dire effectivement que le code pénal militaire à son article 63 prévoit aussi sous la qualification de pillage ces mêmes genres de faits qui sont commis en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes ou force ouverte, soit avec bris de portes ou clôtures, etc. Mais vous constaterez malheureusement que dans ce cas-là, le code pénal militaire prévoit lui comme peine, n'est-ce pas, de 10 à 20 ans de servitude pénale. Alors que lorsque la même infraction est poursuivie sous le régime de l'association des malfaiteurs, eh bien la peine va jusqu'à la peine, n'est-ce pas, de mort. Mais je suis d'accord avec l'auditeur pour dire que lorsque des individus, des civils s'associent avec des militaires, effectivement, oui. ce sont les juridictions militaires qui sont compétentes.
Mmh.
Mais là, nous entrons dans les subtilités de la procédure pénale s'agissant d'une émission de vulgarisation. J'avais essayé d'être le plus simple possible.
D'accord. Donc, au lieu d'aller à la police, à la station de la police, il faut aller directement à la cour d'ordre militaire ou bien à l'auditorat militaire?
C'est plutôt l'auditorat militaire qui fait exactement le même travail que fait le parquet civil, c'est-à-dire ce sont les parquets près les juridictions militaires. On peut aussi effectivement aller à un auditorat militaire le plus proche, où on a aussi un personnel qualifié, des inspecteurs des judiciaires, des OPJ militaires, qui peuvent s'occuper de l'enquête parce qu'il y a effectivement utilisation d'armes. Je suis donc tout à fait d'accord avec l'auditeur pour sa contribution de tout à l'heure.
Mais vous avez dit tout à l'heure par rapport aux indices, on peut voir les types d'armes utilisées, la personne, la manière dont elle s'est présentée. Mais lorsqu'on est intimidé sous les coups de balles, parfois les gens sont stressés et sous la peur. Alors comment peuvent-ils arriver à réunir tout ça?
Oui, généralement, lorsque je reviens à la première hypothèse où on sera auprès du poste de police le plus proche,
oui.
eh bien, lorsque les enquêteurs font leur descente sur terrain, la loi leur donne tous les pouvoirs d'interroger toutes les personnes qu'ils trouvent dans les parages pour recueillir des témoignages. Et à partir des éléments qu'ils récoltent, ils peuvent dresser le profil de l'agresseur ou des agresseurs. Et même lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, d'éléments dépendants du parquet civil, ils peuvent toujours instruire, la procédure le permet, quitte à ce que lorsqu'ils se rendront compte que les personnes concernées par les faits relèvent des juridictions militaires, eh bien, ils peuvent transférer les dossiers auprès du parquet militaire, donc de l'auditorat. Donc, ils descendent sur terrain, pour revenir à votre question, et peuvent non seulement poser des questions à la victime, mais aussi à toutes les autres personnes qui peuvent avoir directement ou indirectement assisté, n'est-ce pas, à la scène. Dans les cas des cambistes, ça se passe souvent en plein jour, et dans les lieux concernés, il y a la population, et donc on peut trouver facilement des témoins qui peuvent avoir vu ou constaté des détails que la victime n'a pas constaté.
Bien, nous avons en ligne Gentil, il nous appelle des Kananga, nous parlons des attaques à main armée, quelle est la procédure à suivre pour porter plainte. Gentil, bonjour.
À notre invité, quelles sont les stratégies que les gouvernements congolais ont pour inviter à cette tracasserie?
Voilà, qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement?
La réponse est assez simple, c'est l'équipement des forces de l'ordre et de sécurité. Il a fallu d'abord leur assurer une mobilité parce que vous savez que souvent, ces infractions, quand elles sont commises, les auteurs sont à bord de véhicules ou de motos, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et vous avez constaté que le gouvernement a fait un effort pour équiper notre police en chariot automobile, on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est une des stratégies. Il y a aussi le matériel de communication qui permet, n'est-ce pas, aux différents postes de police ou aux différents postes des forces de l'ordre, que ce soit les parquets militaires ou civils, de pouvoir se passer les informations sur le profil des agresseurs et éventuellement pouvoir dresser des barrières pour essayer de les cueillir en route. Il y a aussi les réseaux des informateurs, hein, mais ça ce sont des stratégies propres à tous les enquêteurs, à tous les services d'enquête. Il y a des informateurs qui sont comme ça au service des forces de l'ordre et qui donnent des informations sur la localisation de certaines personnes ou de certaines bandes qui opèrent ce genre de forfaits.
Ah,
voilà
quelques
stratégies. Il y en a certainement d'autres que j'ignore.
Mmh. Malonga, vous êtes en ligne depuis Bande Nouville. Bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Ok, merci. En tout cas, les dires de notre invité, c'est très bon à écouter et à lire même nos documents. Mais ce que nous vivons concrètement, c'est tout à fait au contraire, je dis. Puisqu'il y a aussi un système qui nous avait donné que de prendre les numéros de la police et tout ça, mais en tout cas, ça n'arrive pas à satisfaire tous ses besoins. C'est ce que moi, je demande ceci. Est-ce que qu'est-ce qui fait à ce qu'il y ait ces lenteurs continuelles? Même s'il y a des plaintes qui arrivent auprès des sociétés ou bien des parcs ou bien de quoi, il y a des lenteurs qui se poursuivent et on arrive à oublier le cas et puis le victime se fatigue et puis reste comme ça. Or, tout ce que l'invité vient d'énumérer là-bas, si est poursuivi à la loupe, vous verrez que même ceux qui n'ont pas encore commis cela, ils seront découragés. Mais comme ils voient qu'il n'y a rien à exécuter, il n'y a rien à faire, raison pour laquelle, en tout cas, ces assassinats et ces effets se multiplient comme ça. C'est ce que je demande à l'invité. Qu'est-ce qui crée les lanternes et des enquêtes et des processus et des procédures qu'il vient de nous énumérer là-bas?
D'accord, merci. Maximilien, vous êtes à Guémena. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Ah oui, je salue d'abord notre invité. Merci. J'ai trois petites préoccupations. La première, il a parlé d'une police spécialisée en équipement. Je prends l'exemple de nous ici à Guémena. On n'a pas une police modernisée, spécialisée à tous les équipements d'enquête. Pour qu'il y ait une infraction, il doit avoir des preuves sérieuses. Mais si jamais il y a une association de malfaiteurs à main armée qui ont bouclé un quartier qui est sur toi, et c'est dans des milieux reculés, qu'est-ce qu'on peut faire pour connaître les inculpés? Et de deux, il a parlé des associations de malfaiteurs où sont déjà à main armée. Au cas de la légitime défense, parce qu'il y a des gens même qui ont des armes civiles chez eux à la maison, quand ils se trouvent menacés par une association de malfaiteurs, il fait la légitime défense. Est-ce que cette personne sera poursuivie par la loi ou pas? Et pour conclure, quelle est la sanction qu'on peut donner à une association de malfaiteurs? Parce qu'il y a trois types de sanctions. Il y a la sanction préventive, la sanction coercitive, ou soit la sanction pénale, et la sanction réparative. Est-ce que pour une association de malfaiteurs, quelle est la sanction prévue contre eux? Je vous remercie.
D'accord. Maître Guilain.
Oh là là, je vois qu'on a affaire à des spécialistes aujourd'hui, je dis.
Oui, je me rends compte également.
Je reviens à Malonga, à Bandounouville. Évidemment, lui, il a trouvé que ce que nous décrivons, c'est un monde idéal.
Oui.
Mais il a dit que dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Souvent, la police intervient avec lenteur ou elle n'intervient pas du tout.
Oui.
Et souvent, les enquêtes n'aboutissent pas. Bon, je vous dis, nous n'allons pas nier la réalité. Hein. Vous savez, nous sommes aussi des citoyens ordinaires, nous sommes dans la population et nous voyons autour de nous que parfois la police de proximité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se trouve dans les sous-commissariats de police, tarde à intervenir, hein, quand bien même elle entend des coups de fil dans les quartiers. Et des coups de feu, et donc je vous dis, en approchant les policiers par rapport à cela, eh bien, nous avons appris que souvent, ils n'ont pas suffisamment d'armes. Quand il y a attentat, ils savent écouter la manière dont les agresseurs sont équipés et ils comprennent tout de suite qu'ils n'ont pas la force, n'est-ce pas, de pouvoir faire face et de riposter efficacement. Et généralement, ils en appellent à des renforts dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils prennent les moyens de communication qui sont à leur disposition et appellent des renforts au niveau de leur hiérarchie. Et souvent, le temps que ces renforts arrivent pour prêter main forte au sous-commissariat,
oui.
Et les bandits ont déjà eu l'occasion, évidemment, de s'enfuir.
Oui.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec M. Malonga, nous n'allons pas nier la réalité, mais j'étais tout à l'heure en train de dire que nous constatons quand même que, petit à petit, il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour équiper la police. C'est des choses qu'on peut voir. On peut voir maintenant des véhicules pick-up avec des policiers à bord qui se plantent dans certains carrefours. Je crois qu'il y a même une pick-up par commune maintenant, donc par commissariat. Mais on n'est pas encore descendu au niveau des sous-commissariats. Et ça, c'est vrai, ce qui fait que souvent, ces sous-commissariats n'interviennent pas efficacement et à temps, étant donné que souvent, les agresseurs ont une comment on appelle, une puissance de feu supérieure à celle des policiers de proximité.
Oui.
Donc, je reconnais que ce sont des situations qui méritent d'être améliorées. Et c'est le but de votre émission, je crois, jeudi.
Voilà. Et Maximilien nous dit, si en cas de légitime défense, vous êtes victime d'une attaque, mais il y a certaines personnes qui détiennent des armes, d'après lui, et ils peuvent recourir à la légitime défense. Est-ce que ces personnes seront sanctionnées par la loi?
Bon, la première chose à dire ici, Jody, c'est que la situation est assez complexe dans la mesure où la légitime défense est tout à fait autorisée par notre loi, pour autant qu'elle soit proportionnée. Hein, il ne faut pas que quelqu'un qui vous agresse avec un bâton, vous répliquiez avec votre revolver, n'est-ce pas? Mais la légitime défense par rapport à quelqu'un qui vous attaque avec des armes, si vous en avez une, vous pouvez effectivement vous défendre et défendre votre famille et vos biens. Néanmoins, cette détention d'armes est organisée aussi par la loi, c'est-à-dire la personne qui détient l'arme de défense doit avoir eu les autorisations nécessaires auprès du ministère de l'Intérieur. Sinon, alors, vous-même, vous êtes en situation d'infraction des détentions illégales, des détentions illégales d'armes, qui est sanctionnée aussi, si surtout ce sont des armes et des munitions de guerre, qui est sévèrement punie par l'article 203 du Code pénal militaire. Donc, il faut faire en sorte que la détention de l'arme soit autorisée. Ou alors, c'est plus simple si on a les moyens de se rendre auprès de la police et de solliciter une garde armée. Il y a une, je crois, toute une brigade des gardes où l'on peut, si on croit qu'on est en danger, obtenir une garde armée moyennant des conditions à remplir. Donc voilà, je dis la réponse que je peux donner. Oui, la légitime défense est autorisée, mais pour détenir une arme, il faut vous-même avoir obtenu, n'est-ce pas, les autorisations nécessaires.
Rémi Mouchanga et Takindou Rigobert Takumunde nous appelle de Kinshasa. Rémi, bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
Quelle est votre question?
Oui, je m'appelle Rémi depuis Kindou. J'ai seulement l'impression de dire à la Radio Kapi qu'à la ville de Kindou, chaque jour, les bandits mains armées commencent à menacer des ménages de gens. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. J'allais proposer la proposition que la MONUSCO peut veiller à former des policiers qualifiés pour défendre la population parce que nous sommes au Congo et nous sommes dans notre ville et on commence chaque fois à nous menacer la nuit. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Je pose maintenant à notre invité. On nous disponibilise le numéro de téléphone. Est-ce que si vous êtes dans les attaques, vous serez en mesure d'appeler un policier? Vous-même, vous connaissez comment les bandits à main armée sont en train de procéder à leurs affaires, à se occupant à beaucoup des armes, comme ça beaucoup de problèmes. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être en mesure d'appeler la police nationale. C'est ça la question.
D'accord, merci. Rigobert, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Radio Kapi. J'ai deux préoccupations. La première, est-ce que quand il y a par exemple vol avec les armes blanches, est-ce que la procédure portée plainte, c'est-à-dire est la même s'il y a eu un cas de vol armé? C'est la première question. Deuxième question, je voulais savoir quand par exemple il y a eu vol armé, est-ce que la police de proximité peut-on saisir du dossier directement? Et l'intéressé aussi, quand par exemple la police de proximité a déjà des dossiers, est-ce que l'intéressé aussi peut aussi porter plainte ou il va seulement contacter du dossier que la police de proximité a déjà fait les enquêtes? Merci, je vous remercie.
Bien, merci. Maître Guy Lamalère.
Oh là là, ça fait beaucoup de questions. Je commence par Rémi, dont les préoccupations rencontrent celles de tout à l'heure de Maximilien à Guémena. C'est sur l'aspect préventif, hein. Il estime qu'effectivement, on ne travaille pas suffisamment sur la prévention de ces crimes, surtout dans les milieux reculés en province, de sorte que la population semble être à la merci de ces bandes armées ou de ces agresseurs porteurs d'armes. Eh bien, il en appelle à la MONUSCO, etc. Mais il se pose la question de savoir si malgré les numéros verts, on ne peut pas l'utiliser en temps de danger, finalement, quelle est la solution? C'est la même préoccupation que Maximilien. Moi, je pense que ici, on entre ici dans le problème des moyens d'équipement, parce que effectivement un des rôles de la police c'est de prévenir, donc procéder à la sécurisation des biens des personnes, c'est œuvrer d'abord dans la prévention. Il n'est pas souhaitable d'attendre que les crimes soient commis pour intervenir, mais il est bon de pouvoir les prévenir. Et ça, ça passe par la dotation des forces de l'ordre, de la police, des services de renseignement, etc., des moyens conséquents. Ça devient un problème budgétaire, ça devient un problème de nos députés, finalement, qui doivent penser à allouer aux services de l'ordre des moyens conséquents, de sorte que les services puissent être équipés. Parce que ailleurs, la police, c'est pas des miracles, les recettes sont connues. La police doit avoir des hommes suffisamment formés, doit avoir l'équipement nécessaire, et bien, elle devient efficace. Mais dans notre cas, nous avons un problème de modicité des moyens budgétaires qui fait que l'État a peu de moyens qu'il essaye de partager entre de nombreux besoins, et ce qui fait que généralement les forces de l'ordre n'ont pas l'équipement qu'ils auraient souhaité avoir. Donc je reconnais tout à fait qu'il y a des choses qui doivent être faites, mais ce problème est complexe. Il y a aussi une part de la responsabilité de la population, le civisme fiscal, est-ce que nous payons nos impôts, est-ce que
oui,
nous donnons
oui.
à l'État les moyens de
Maître
les
servir
comme il faut.
Oui.
Et ceux qui gèrent ces moyens, est-ce qu'ils les gèrent aussi convenablement, selon les principes de la bonne gouvernance? Ça devient complexe aujourd'hui, mais nous reconnaissons avec les auditeurs qu'effectivement, les forces de l'ordre ont besoin d'être renforcées en ressources humaines et en moyens matériels.
Oui, vous avez dit tout à l'heure, la sanction, c'est la peine de mort en cas de d'attaque à l'association des malfaiteurs. C'était pour répondre à la question de Maximilien de Guémena. Et alors, Rigobert dit, quand il y a vol avec arme blanche, est-ce que la sanction est la même?
Tout à fait,
lorsque
nous sommes dans l'hypothèse des bandes organisées, mais qui viennent, n'est-ce pas, avec des armes blanches pour exécuter leur attentat, eh bien, le fait seulement qu'ils se sont organisés en bande, dit l'article 156, le fait seulement de s'organiser dans une bande dont la mission principale est de porter atteinte aux biens et aux personnes, constitue déjà, n'est-ce pas, une association de malfaiteurs avant même que la bande n'ait agi. Donc les moyens utilisés importent peu. C'est d'abord le fait qu'ils s'organisent en bande et projettent de porter atteinte aux biens et aux personnes. Et ensuite, ils se dotent d'armes pour aller agir. Donc à partir du moment où la bande déjà est constituée et qu'il est prouvé qu'elle est constituée dans ce but-là, eh bien ça c'est une association de malfaiteurs. La loi a voulu décourager ce genre d'entreprise. Voilà pourquoi elles ont été poursuivies même dans la genèse, dans la fondation même de la bande. À partir de la fondation de la bande, mais toujours, la sanction est applicable et jusqu'à preuve du contraire, c'est la peine de mort qui est prévue par notre code pénal n'est-ce pas, livré d'eux.
Et voilà, et Rigobert dit ceci, lorsque la police s'est saisie de l'affaire, faut-il se limiter là ou on peut aller au parquet?
Oui, c'est toujours... vous savez, la police, je le disais tout à l'heure aujourd'hui, je crois que c'est bon d'insister, il n'appartient pas à la victime, n'est-ce pas, d'opérer, de chercher à savoir, d'opérer une distinction subtile entre quel est l'organe réellement compétent. Bon, puisque la police est là, vous pouvez porter toutes les plaintes auprès de la police. C'est elle maintenant qui, au vu des éléments de l'enquête, va orienter, n'est-ce pas, le plaignant vers la structure qui est à même de mieux prendre en charge son cas. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez porter plainte devant la police de proximité, eh bien, elle va instruire le dossier et vous orienter, par exemple, vers le parquet civil. Ou alors, estimer que comme il y a des hommes en armes qui portaient des armes de guerre et des munitions de guerre, vous orientez vers le parquet militaire. Et elle va, en ce moment-là, la police de proximité, transférer ou transmettre tous les dossiers, c'est-à-dire les procès-verbaux qu'elle avait déjà établis et tous les indices qu'elle avait récoltés sur le terrain, à l'institution compétente, que ce soit les parquets militaires, que ce soit les parquets civils. Donc, c'est facile pour nous, les citoyens, la partie lésée, d'aller d'abord vers la police de proximité. C'est à elle qui aidera, n'est-ce pas, à orienter les dossiers vers la structure qui est à même de le prendre correctement en charge.
Maître Guilhem Allaire, praticien des droits, merci et bonne journée.
Merci Jody, merci à toute l'équipe de Okapi Service.